Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien, à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Nous allons en parler aujourd'hui avec Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du président de la République sur le genre et les violences faites aux femmes. Nous aurons également Madame Iliane Ndeye-Kané, conseillère sur la protection de la femme au bureau des droits de l'homme de la MONUSCO. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Jessica Ikete, logopède orthophoniste, présidente d'Orthokin sera avec nous, ainsi que Madame Swao Samba, nutritionniste spécialisée dans l'alimentation alcaline. Des questions et préoccupations, n'hésitez pas, le standard est ouvert, appelez au 081 890 63 94. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Tati Mapuku assure la réalisation de cette émission, que coordonne Marcel Ngomoumbalakeba. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Enfants, c'est votre nouvelle radio. Une radio pour les enfants, avec les enfants et les parents, sur la 103.2 FM. Des reportages, interviews et magazines réalisés par les enfants eux-mêmes, accompagnés par les adultes. Yeah. Au menu, santé, environnement, éducation, protection de l'enfant et bien d'autres thèmes de la vie quotidienne. Okapi Enfants, une radio pour apprendre et se divertir du lundi au vendredi de 8h à 17h, heure de Kinshasa. Venez écouter les enfants sur la 103.2 FM. Okapi Enfants, la première fréquence des enfants en RDC.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service, le magazine qui s'occupe de vos problèmes au quotidien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit. Vous savez, la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme démarre ce 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle prendra fin le 10 décembre, qui marque la journée des droits de l'homme. En RDC, les cas des violences sexuelles liées au conflit ne cessent d'augmenter. D'après les experts, c'est les cas en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les groupes armés ainsi que les hommes en uniforme sont souvent identifiés comme auteurs de ces violences. Alors, quelles sont les actions à mener pour lutter efficacement contre ces fléaux? Nous recevons à présent notre première invitée, Madame Yande Ndeye-Kané, conseillère sur la protection de la femme au bureau des droits de l'homme de la MONUSCO. Madame Yande Ndeye, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Eh bien, nous allons échanger avec vous à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Nous allons parler des violences sexuelles liées au conflit. La première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle.
Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Radio Okapi. Je vous salue aussi et vous remercie d'avoir organisé cette interaction. Je vais commencer par la résolution 1960 pour vous expliquer et vous donner la définition même des violences sexuelles liées au conflit, qui sont des incidents isolés, il faut le reconnaître, et surtout des incidents systématiques de violences sexuelles. À savoir le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle comparable, dont sont victimes des femmes, des filles, des hommes et même des garçons. Ces incidents, parfois isolés ou systématiques, surviennent dans un contexte de conflit. Et c'est ça qui est important pour nous, ou aussi dans d'autres situations préoccupantes, comme par exemple quand il y a des troubles politiques. En outre, ces incidents ont un lien direct ou indirect avec le conflit ou les dits troubles politiques. Voilà, à travers un lien temporel, géographique ou causal.
Oui. Donc on peut dire que la plupart des violences sexuelles sont liées au conflit, principalement au conflit.
Oui, c'est lié au conflit.
Voilà. Alors quel état des lieux vous faites aujourd'hui des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo?
L'état des lieux que je vais vous faire, bon, vous savez, à chaque fois que le Bureau des Nations Unies, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, élabore un rapport, c'est un rapport qui est vérifié, corroboré et documenté. Donc, au courant du troisième trimestre, quand même, nous avons constaté qu'il y a une baisse de 38% comparé au trimestre précédent, c'est-à-dire au deuxième trimestre. Toutefois, force est de constater que parmi ces cas que le bureau a documentés, 55% des cas sont attribués aux groupes armés. Et ces conflits ont occasionné dans le Maniema, Sud Kivu, Tanganyika, des déplacements massifs de la population et a occasionné aussi des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et force est de constater aussi que c'est dans des endroits où l'accès est très difficile. Les victimes de violences sexuelles en temps de conflit avaient beaucoup de difficultés à accéder à l'assistance médicale et psychologique.
Ça se passe beaucoup plus au niveau des villages, dans des villages reculés?
Oui, dans des villages enclavés, comme je venais de le dire, où l'accès est
difficile.
Oui. Toutefois, nous avons aussi documenté 30% des cas qui sont imputables au FARDC et 12% à la PNC. Et comme je venais de le dire, parmi les victimes, nous avons des déplacés internes ainsi que des réfugiés, des personnes qui ont le statut de réfugiés.
Voilà. Alors, nous insistons auprès des auditeurs. Aujourd'hui, cette émission se passe, c'est une émission live en direct depuis un moment. Okapi Service faisait des enregistrements, mais aujourd'hui, nous sommes en direct et nous vous rappelons les numéros pour participer à cette émission. C'est les 081 890 63 94. Appelez déjà. Nous attendons vos appels pour participer à cette émission. Alors, madame, vous avez identifié les auteurs, beaucoup plus les groupes armés, les hommes en uniforme, FARDC et autres qui sont identifiés comme auteurs de ces violences sexuelles. Alors, est-ce qu'on a cherché à savoir le vrai mobile? Qu'est-ce qui pousse ces personnes à se comporter ainsi?
Eh bien, je voudrais juste insister sur un fait, que les auteurs, ce sont des auteurs présumés, hein, parce qu'ils n'ont pas été jugés et condamnés, donc. Nous insistons aussi sur l'aspect, la présomption d'innocence. Donc, c'est des auteurs présumés.
Oui.
Voilà. Moi, je pense que les causes profondes de cette problématique, c'est surtout lié à l'insécurité, l'instabilité aussi, et les conflits armés, la prolifération des groupes armés à l'est du pays, ainsi que l'absence ou la faible présence de l'État dans certaines zones. Comme je venais de le décrire, les zones sont difficiles d'accès avec des infrastructures qui ne sont pas en place pour permettre d'avoir accès à ces endroits. D'où nécessité, comme nous avons l'habitude de le dire, il faut qu'il y ait contrôle des armes à travers un programme de DDR, de désarmement, démobilisation et réintégration. Par ailleurs, quand on parle de causes aussi, on ne peut pas ignorer le caractère, le climat d'impunité qui existe autour de ce problème.
Bien. Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit? Madame Yande Ndeye, conseillère sur la protection de la femme au Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO, est notre invitée. Nous allons également recevoir tout à l'heure Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du président de la République sur les genres et les violences faites aux femmes. Un auditeur en ligne depuis la ville de Kananga. Jean-Pierre Passois, nous avons également Christian Kaleka en ligne depuis Kananga. Vous voulez participer à cette émission, composez le 081 890 63 94.
À Kamina sur 104.3 FM.
Jean-Pierre Passois de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, c'est aujourd'hui. Daniel Kachama.
Bienvenue. Bienvenue dans cette émission, Jean-Pierre. Quelle est votre question par rapport aux violences sexuelles liées au conflit?
Merci beaucoup, cher Jody. En ce qui concerne le problème des violences sexuelles liées aux conflits armés, vraiment, c'est un fil à retordre pour mettre fin à ça, quand bien même les conflits armés ne cessent d'accroître dans l'est de notre pays. Et il faut noter que cette situation et sur les épaules de l'État congolais qui n'arrive pas à pacifier l'est du pays et à mettre fin sur les auteurs de ces crimes. Et sur ça, nous exhortons l'État congolais à travers son ministère de la Défense nationale et des anciens combattants à sensibiliser ou tenir des ateliers de formation pour éduquer et ou donner des messages sur ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles. Voilà ma préoccupation, cher journaliste.
Merci Jean-Pierre Passois. Christian Kaleka de Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bienvenue Christian, quelle est votre préoccupation?
Bon, c'est pas la préoccupation, mais c'est juste une contribution.
Oui.
Bon, je pense que pour maîtriser cette situation, l'État congolais d'abord devait d'abord songer à ces jeunes gens qui veulent toujours entrer dans les groupes armés. Ça dit à quoi? Premièrement, par le chômage. Vous savez, monsieur Jordi, vous allez comprendre avec moi que c'est le chômage qui fait que ces jeunes-là puissent se retrouver dans les groupes armés. Dans quel sens? Vous pouvez terminer 5 ans, 10 ans sans l'emploi, monsieur Jordi. Et que des occasions pareilles se présentent. Et vous allez vous regrouper dans une équipe pour entrer dans les équipes armées. Et cela a dit. Et c'est dit à ce genre de choses. Alors, l'État congolais peut vraiment chercher à récupérer ces gens qui sont dans les groupes armés, chercher des emplois qui peuvent leur aider à quitter aussi dans ces équipes des armées. Oui. Et deuxième des choses, c'est ça dû aussi à notre surveillance de nos autorités congolaises. Alors, si les autorités congolaises devaient vraiment converser avec ces jeunes et dialoguer avec eux, envoyer une équipe pour récupérer ces hommes qui sont dans les groupes armés et rentrer avec eux, chercher les emplois pour... Et je crois que cette situation doit être résolue dans cette façon-là, M. Jordi. Mmh.
Merci Christian Kaleka de Kananga. Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit? Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081 890 63 94. Le standard est ouvert. Madame Yande Ndeye, vous avez suivi les deux auditeurs de Kananga. À vous la parole.
Oui, merci bien. Je pense que, comme nous avons l'habitude de le dire, la tâche principale incombe à l'État congolais, mais aussi il faut dire que nous sommes là pour soutenir cet État congolais à travers les actions de plaidoyer, à travers la lutte contre l'impunité. Et je pense qu'ensemble, nous allons relever les défis liées aux violences sexuelles liées au conflit. Donc, je concède ce que vient de dire l'auditeur qui m'a précédé. Alors, pour revenir maintenant aux actions à mener pour lutter contre ce fléau,
oui. Laissez-moi
juste rajouter quelque chose, comme je l'ai dit. Notre stratégie vise à guider le travail de plaidoyer conseiller, sensibiliser aussi. Voilà. Parce que la protection est un mandat. C'est, ça constitue même le mandat du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Et notre objectif est de faire un travail de plaidoyer et d'action pour pouvoir aborder et résoudre cette problématique sur le long terme. Parce que toutes les actions qui sont visées sont sur le long terme. Donc, la perspective responsable et durable pour éliminer
violence sexuelle liée au conflit.
Fléau, je dirais, et surtout le climat d'impunité. C'est le climat d'impunité. Et laissez-moi, en parlant du climat d'impunité, laissez-moi juste vous dire que, voilà, nous nous réjouissons tous du verdict qui est tombé hier. Je pense que vous suivez les informations au niveau du Nord Kivu. Cela démontre une fois de plus que nous progressons dans la lutte contre l'impunité. Je veux parler du procès de Tcheka. Mmh. Nous saluons tous ces efforts. Aussi, nous osons espérer que cette bonne volonté politique va continuer et que ce verdict aura un effet dissuasif et un impact positif sur la prévention des viols et des violences sexuelles en temps de conflit. Parce que, comme vous le savez, Jody, la lutte contre l'impunité est très importante pour aboutir à la paix, si je peux m'exprimer ainsi.
Bien. Alors, nous sommes en la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme démarre ce 25 novembre. Pouvez-vous nous rappeler quelle est l'importance ou le but de ces 16 jours d'activisme?
Oui, il faut rappeler que la commémoration des 16 jours d'activisme nous permet déjà d'attirer l'attention de l'opinion publique, d'alerter et de prévenir aussi sur les crimes de violence sexuelle. Comme vous le savez, l'ampleur de la violence et de la violence sexuelle liée au conflit en RDC nous interpelle tous. Il n'y a pas d'exception. D'où la nécessité d'avoir une stratégie nationale et une approche holistique. Et ça, pour l'avoir, il faut qu'on coordonne toutes nos actions, tous nos plaidoyers à tous les niveaux, ainsi que des activités de sensibilisation et de communication pour mettre fin à ces violences. Donc, chaque couche de la population a un rôle clé, primordial à jouer. Et surtout, renforcer nos plaidoyers pour la tolérance zéro. Parce qu'il faut que ça soit effectif, cette tolérance zéro. Il faut qu'on voit les résultats pour les violations contre les civils, et particulièrement les femmes et les enfants. Donc, les 16 jours d'activisme, c'est une activité qui se passe sur plusieurs jours et nous joignons nos efforts pour faire des plaidoyers dans ce sens, pour le respect des droits de l'homme de façon générale et particulièrement les droits socio-économiques et culturels. Enfin, quand nous menons cette campagne d'activisme pour de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est pour aussi appeler à travailler et à agir contre toute forme de violence et exploitation et aussi des relations de pouvoir subies par les femmes, les plus vulnérables. Quand on dit que plus vulnérables, parce que les femmes et les enfants sont plus touchés à chaque fois qu'il y a violation ou violence.
Bien, vous avez dit tout à l'heure que l'un des problèmes majeurs qui freine la lutte contre les violences sexuelles, c'est l'impunité. Mais déjà, il y a quand même des signaux positifs avec la condamnation de Ntabé Risheka, fondateur et ancien chef du groupe armé Nduma Défense au Congo. Cet ancien seigneur de guerre a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants, pillage, destruction des biens et atteinte à l'intégrité physique. Ces crimes graves ont été commis contre les civils, notamment des femmes et enfants, entre 2007 et 2017 dans les territoires des Walikale, au Nord Kivu. On peut dire qu'avec ce procès, on sent quand même il y a une volonté de lutter contre l'impunité, Madame Yandé.
Ah oui, il y a une volonté politique, et je l'ai dit tout à l'heure. Et nous saluons ces efforts. dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Parce que pour nous, c'est une victoire, en fait. C'est une victoire. Et comme je l'ai dit aussi, ce verdict aura un effet dissuasif pour prévoir des victimes potentielles. Ça, c'est clair, parce que la lutte contre l'impunité fait partie de la prévention aussi. Donc, nous saluons ces efforts, vraiment, de la part des autorités congolaises, des autorités judiciaires.
Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées aux conflits armés? Nous avons en ligne Patrice Mouderoy depuis Bukavu. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour Radio Okapi.
On vous écoute Patrice.
Oui, quant à ce sujet, je pense que les actions à mener pour mettre fin aux violences sexuelles, il est mieux qu'on puisse chercher les causes qui sont à la base de ces violences sexuelles, mais aussi la justice doit sanctionner toute personne qui serait présumée afin de dissuader les autres malfaiteurs. Mener également des séances de sensibilisation dans des milieux qui sont reconnus comme victimes.
Bien, merci Patrice qui nous dit qu'il faut rechercher les causes profondes. La justice doit aussi être mise à contribution. Et puis, il insiste sur la sensibilisation des communautés. Madame Yandé.
Mm-hmm. Oui. J'apprécie beaucoup sa contribution parce que c'est ça le hic autour de cette problématique. Et il faut qu'on trouve les voies et les moyens pour surmonter cet obstacle, bien sûr. Merci.
Bien. Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit. C'est dans le cadre de la campagne des 7 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Nous avons en ligne Del Ali depuis Kananga. Vous voulez aussi participer? Eh bien, composez le 081 890 63 94. Del Ali, bonjour.
Oui, bonjour les gars.
On vous écoute, Del Ali.
Ok, concernant maintenant ma préoccupation, j'ai commencé aussi à avancer ceci. Si parfois l'État congolais veut quand même ceux-là qui travaillent, ou bien donne quand même un salaire là, colossal aux gens qui travaillent là, les violences peuvent quand même avancer non plus. Et aussi, j'ai demandé quand même surtout beaucoup plus auprès hiérarchique, Félix Antoine Séguier, qui est délivré, ceux-là qui travaillent. Si parfois, il donne quand même un montant colossal, là, les choses peuvent quand même avancer.
Qu'est-ce qui doit être fait? On n'a pas bien compris ce que vous voulez dire.
Si parfois, l'État congolais donne quand même un montant colossal aux gens, ou bien aux travailleurs, là, les violences sexuelles peuvent quand même avancer. Pourquoi? Puisque si parfois, les gens ont vraiment frappé par les capacités ou bien par la pauvreté, c'est pourquoi vous voyez toujours les violences sexuelles qui se bloquent toujours.
Bien. Merci. Madame Yandé, qu'est-ce que vous pouvez dire à Del Ali de Kananga?
J'avoue que je n'ai pas bien entendu.
Voilà. Oui, il dit que la pauvreté favorise les violences sexuelles. Alors, d'après lui, il faut bien que le gouvernement paye bien sûrement les hommes en uniforme ou les gens comme ça. Ça va réduire le taux des violences sexuelles.
Oui, je pense que la pauvreté fait partie des causes profondes aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi à travail égal, salaire égal, bien sûr.
Voilà. Alors, dites-nous, Madame Yandé, à part vous avez parlé de la lutte contre l'impunité, quelles sont les autres actions à mener? Parce que vous avez parlé des actions seulement à long terme, mais il peut y avoir aussi des actions à court et à moyen et à long terme.
Oui, non, les actions, c'est tout le temps. Hein. Tout de suite, par exemple, la lutte contre l'impunité ne doit pas tarder. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est un long processus, mais quand il y a des violences, il faut que les autorités agissent à temps, mais aussi dans le cadre de la sensibilisation, parce qu'il y a des actions qu'il faut mener. Il faut aussi sensibiliser la population. Il faut sensibiliser les victimes potentielles. Il faut aussi que le problème de protection soit immédiat, soit réglé. Parce que sans la protection de la population, voilà, nous aurons toujours des cas de viol et de violence sexuelle si la population n'est pas protégée. Donc tout ça, c'est des actions à mener immédiatement pour éviter même d'avoir des victimes.
Bien. Mais il y a aussi un problème, c'est que les victimes de ces violences sexuelles gardent silence autour de cela. Les familles ne veulent pas en parler parce que c'est une humiliation, c'est une honte dans la communauté, on n'en parle pas. Bon, soit on préfère régler les choses à l'amiable.
Oui, ça c'est un problème et nous l'avons constaté. C'est pour ça que nous menons toutes les actions pour briser ce silence. Il faut que les victimes sortent de leur coquille et commencent à dénoncer, commencent à parler. Et ça, nous le faisons à travers les sensibilisations. Et aussi éviter cette stigmatisation. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, parfois se faire violer, ça suscite la honte, la répudiation. Donc voilà, il y a tous ces problèmes autour du viol et des violences sexuelles. Mais il faut qu'on continue à conscientiser la population pour qu'ils commencent quand même à parler et sortir de ce silence. Et parce que s'ils ne parlent pas, on ne pourra pas les assister. En fait, c'est ça le problème.
Bien, nous allons accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale du président de la République sur les genres et les violences faites aux femmes. Madame Chantal Moulop, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Nous allons bien, merci. Bienvenue dans cette émission au Capi Service à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme qui démarre ce 25 novembre. Alors dites-nous, Madame Chantal, quelle est la politique du président de la République ou le programme présidentiel par rapport à la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit?
Pour le programme présidentiel, le programme du président de la République est sur trois axes importants, qui est la sensibilisation et la mobilisation communautaire au changement de comportement. Il y a aussi la lutte contre l'impunité des auteurs et l'appui à la prise en charge holistique des victimes.
Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire que ce programme est déjà mis en exécution ou bien, ou à quel niveau vous vous trouvez déjà dans l'exécution de ce programme?
Bon, depuis 2014, il y avait eu un communiqué conjoint qui a été signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies pour mettre en place une feuille de route pour tout ce qui est violence sexuelle en zone de conflit, et aussi pour mettre en place le plan stratégique de la FARDC sur la violence sexuelle et le plan stratégique de la police nationale sur tout ce qui est violence sexuelle dont les auteurs étaient souvent des hommes en uniforme. Alors ça existe depuis longtemps. On a plein de lois qui ont été mises en place. Hein. On a la Constitution, on peut parler de la Constitution de la République sur les articles 14 et 15 qui condamnent toutes les attentions aux droits humains. On a aussi la loi du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 juin 1940 portant le code pénal congolais qui existe aussi. On a dans cette loi, en 1959, il y avait le code de procédure pénale congolaise qui sanctionne les actes de violence sexuelle. Ça veut dire que c'est depuis longtemps que les lois ont été mises en place. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas nouveau. Et puis on a eu aussi en 2009, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles qui a été depuis 10 ans après, en 2019, il a été révisé et présenté par la ministre du genre. Et puis on a aussi l'adoption de la FARDC, ça je vous ai déjà expliqué, l'adoption de la FARDC et la police nationale sur la violence sexuelle, le plan stratégique a été mis en place. Il y a eu la tenue des audiences foraines. On a beaucoup d'audiences foraines pour juger les auteurs des violences sexuelles. Jusque-là, on a condamné à peu près 428 acteurs de violences sexuelles. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation dans les communautés et sur les méfaits de violences sexuelles. Nous avons aussi, le développement des communautés en mettant en place des champions de masculinité positive. Ici, le plus grand champion de masculinité positive, c'est le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il est reconnu mondialement comme étant un he for she. C'est lui aussi qui chapeaute pour le Congo. C'est lui le champion et le leader de tout ce qui est violence sexuelle, parce qu'il en fait son cheval de bataille. Et puis aussi, on a aussi l'intégration des notions de l'égalité hommes et femmes dans les programmes d'enseignement national. Ils vont en avoir aussi dans les programmes à l'école primaire. De plus en plus, ils commencent à avoir des projections de vidéos contre la violence, sur la promotion aussi de la femme, de la jeune fille, et beaucoup de vidéos de vulgarisation qui se passent. Ça veut dire que le Congo n'est pas du tout en retard. Le Congo est même l'exemple même de différents pays. Le Congo est en avance. Le Congo est utilisé comme modèle de prise en charge et modèle de conscientisation. Souvent, la population ne se rend pas compte de tous les efforts qui ont été faits par différents acteurs depuis même avant mon arrivée dans la scène politique. Et c'est vraiment à féliciter parce que on est numéro un dans la prise en charge et de référence. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à tous ceux qui disent que le Congo est la capitale mondiale du viol?
Ben, ça, c'était Human Rights qui avait alerté avec tout ce qui s'est passé avec les deux guerres qu'on a eues, et le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et maintenant, on peut vraiment pas dire ça parce qu'on a mis tellement d'efforts pour pouvoir éliminer. Là, on a mis en place l'addendum du communiqué conjoint, c'est-à-dire le communiqué conjoint a été revu et resigné par le gouvernement congolais pour enlever le Congo dans la liste noire des pays où il y a la violence sexuelle. Alors la feuille de route, la partie technique a été approuvée. Il reste plus que la partie politique qui doit être approuvée par un ministère du gouvernement, c'est-à-dire ça peut être ou bien le ministère du genre qui peut l'amener au niveau politique, ou bien le ministère de la justice, ou bien le ministère de l'intérieur, pour que les Nations Unies puissent dire voilà, le Congo maintenant on est prêt à finir avec la violence sexuelle. Alors ça dépend vraiment, cette partie politique, ça dépend vraiment de ministère. Quel est le ministère qui va le chapeauter? Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est le président de la République qui a été choisi pour être le leader et le patron pour tout ce qui est violence sexuelle par les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça depuis 2012, je pense.
Bien, on va accueillir un auditeur qui nous appelle depuis Djougou. Baraka, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Bienvenue dans cette émission, Baraka. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit?
Bon, merci pour m'avoir accordé la parole. Je vois qu'à la sécurité qui concerne la violence dans notre pays, je vois qu'il faut d'abord mieux payer les hommes en uniforme pour mettre fin à la violence. Alors, ce que nous pouvons énumérer comme les causes, la pauvreté, la famine, la crise, et puis il y a des filles qui se circulent presque toute la nuit. Alors, pour mettre fin à cela, il faudrait d'abord que les parents puissent mieux veiller sur les filles et soit sur aussi les autres personnes. C'est ça les solutions que nous devons proposer.
D'accord, merci. Madame Yandé, vous avez la parole.
Merci bien. Moi, je voudrais juste revenir un peu sur les défis. Les défis sont énormes, hein, il faut le constater. Mmh. Les défis sont énormes, mais nous avons l'espoir de pouvoir surmonter ces défis ensemble. Je vais juste faire un petit rappel des résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité. Si le compte est bon, je pense que nous sommes à 10 résolutions. Et ces 10 résolutions mettent en exergue le lien entre les violences sexuelles, l'égalité des sexes et le rétablissement de la paix et la sécurité. Donc, dans ce domaine, il y a beaucoup, beaucoup de défis à relever. Mm-hmm. Certaines choses ont été faites, mais il reste beaucoup, beaucoup de choses aussi à faire. C'est pour cela, moi, je souhaiterais qu'il y ait un engagement fort et sérieux, ainsi que des actions concrètes et une bonne volonté politique à tous les niveaux, hein, pour répondre aux causes profondes, même que j'ai décrites tout au début. Ces causes profondes, les causes structurelles liées à ces conflits et à ces violences. C'est ce que je voulais. Et qui dit cause structurelle aussi peut épingler juste ce que venait de dire l'auditeur. Mmh. Il venait juste de parler. Les causes structurelles sont énormes. Et il faut les attaquer aussi pour surmonter les défis.
Bien. Madame Chantal Baraka de Djougou nous dit qu'il faut mieux payer les hommes en uniforme parce que malgré les efforts, le taux de violences sexuelles liées au conflit ne cesse de prendre de l'ampleur. Et ce sont les hommes en uniforme qui sont plus pointés du doigt. D'après lui, il faut mieux payer ces personnes et ça va réduire le taux des violences sexuelles.
Répondre à des questions de monsieur qui a parlé. La première, je ne pense pas que c'est le salaire qui fait qu'il y a les taux de violence. Le taux de violence, c'est la violence qui a été faite à la femme, surtout la violence sexuelle, c'est pour intimider la femme, montrer son pouvoir à la femme, diminuer la femme, la ridiculiser. Ça n'a rien à voir avec le salaire qu'on lui donne. Les policiers, surtout les hommes en uniforme, la FARDC, ils ont signé tous une convention, un contrat contre la violence faite à la femme. Ça veut dire que à chaque fois qu'il faut il y a un acte de violence, il y a une accusation, directement ils passent à l'auditoire et ils sont jugés et condamnés. Et ça, c'est depuis 2015 que ça a commencé. Et celui de la police, pour la FARDC, c'est la même chose. Ils sont tous ils passent tous à l'auditoire militaire. Et ils sont jugés et condamnés aussi. Mais de l'autre côté, j'aimerais un peu parler à un monsieur pour les jeunes filles qui sortent tard.
Oui.
C'est très facile de condamner les jeunes filles pour la violence. Ça, c'est une culture. C'est un problème de culture où on dit que c'est la femme, c'est la fille, si elle a été tabassée, si elle a été violée, si elle a été tuée, c'est de sa faute. Non, monsieur, ce n'est pas la faute de la fille. Quand une petite fille de 3 mois se fait violer sexuellement par un homme de 50 ans, je ne pense pas que c'est la faute de cette fille-là de 3 mois qui s'est fait violer par un homme de 50 ans. Quand une maman, une grand-mère de 99 ans se fait violer par un jeune homme de 30 ans avec 3, 4, 5, 6, 10 jeunes hommes qui violent cette vieille maman, ce n'est pas parce qu'elle s'est promenée le soir. On a eu des cas, des infirmières, parce qu'elles étaient en train de travailler en soirée dans un hôpital. Elles se sont fait violer par 50 hommes. Est-ce que c'était la faute de ces femmes-là parce qu'elles s'est promenées dans le soir pendant la nuit? Non. Je pense qu'on doit changer notre mentalité. La population, surtout les hommes qui vivent dans un système traditionnel, ils devraient un peu comprendre plus c'est quoi la violence faite à la femme. Il faudra plus éduquer la population sur la violence faite à la femme. Et la violence faite à la femme, ce n'est pas seulement la violence faite à la femme. La violence faite à l'homme, ce n'est pas seulement la violence faite à la femme. On a des jeunes garçons ici qui quittent une ville pour aller à Matete voir leur papa. Et en pleine rue on les kidnappe et puis on les sodomise. Alors ça, est-ce que c'est parce que ces jeunes-là qui ont 10 ans ont provoqué des gens? Non. On les a kidnappés ici, en pleine Kinshasa. Hein? Et c'est ça qu'on doit regarder. La violence sexuelle, elle est à tous les niveaux maintenant ici au Congo. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Et maintenant, il faut commencer à en parler. Et
oui.
C'est là qu'on, j'appuie vraiment la vision du président de la République où il nous permet de pouvoir accuser. Il nous permet de pouvoir parler. Il a dit, il ne faut plus rien cacher, Madame Moulog, il faut vulgariser tout ça, il faut montrer à l'opinion publique que la violence sexuelle, la violence faite à la femme, existe et continue et n'arrête pas d'augmenter. Et c'est à nous maintenant de travailler pour finir avec ça. Parce que c'est vraiment le cheval de bataille du président de la République. Il se bat tous les jours dans ses discours, il n'arrête pas d'en parler pour conscientiser le monde.
Bien. Voilà. Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit? Alors, Madame Chantal, pendant la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme, qu'est-ce qui est prévu dans votre programme? comme activité?
Bon, dans notre programme, nous, on va beaucoup participer au programme de différents organismes pour beaucoup plus les appuyer, parce que souvent, tout le monde veut se référer vers la présidence, tout le monde veut se référer sur le programme du gouvernement. Non. Quand on regarde dans tous les pays du monde, c'est tout le monde qui participe au 16 jours d'activisme. Le 16 jours d'activisme ne doit pas être politisé. Mais malheureusement, nous, on a appris à tout politiser ici au Congo. Il faut que ce soit quelque chose de libre. Une maman qui habite dans la commune de Ntélé, qui décide de faire quelque chose, une action de 16 jours d'activisme dans sa commune, qu'elle le fasse. Nous, ils nous invitent et nous, on va appuyer. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est chapeauté un peu par l'ONU Femmes, ce serait bien aussi que ces femmes-là puissent rapporter le travail qu'ils sont en train de faire pour que ce soit reconnu mondialement, pour que ce soit reconnu aux Nations Unies, qu'il y avait différents départements qui ont fait
organisations.
Organisations qui ont participé au 16 jours d'activisme. Nous, on va peut-être mettre en place une chanson qui va attirer les gens à comprendre c'est quoi la violence, ou peut-être aimer plus les femmes, à comprendre un peu plus les femmes. C'est ça qu'on est en train de regarder pour le moment.
Quelles sont les actions à mener contre les violences sexuelles liées au conflit? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Un auditeur en ligne depuis Kolwezi, Isaac Tchoni. Bonjour.
Bonjour la radio Okapi, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment.
Bien, nous invitons également les autres auditeurs qui veulent participer. Le standard est ouvert, composez le 081 890 63 94. Allez-y Isaac.
Merci beaucoup la radio Okapi. Vis-à-vis au sujet du jour, à mon humble avis, je souhaiterais que les ONG en place puissent mettre sur pied une thérapie communautaire qui consiste d'une part de prendre en considération les anciens violeurs qui aujourd'hui ont déjà renoncé à ce genre de pratiques, et de l'autre côté prendre aussi les personnes traumatisées, également aussi les ex-violés, qu'on puisse mettre cette pratique pour permettre à ce que la population puisse se prendre en charge. Ça sera aussi une tâche noble pour les médias à pouvoir diffuser les séances de thérapie que les ONG pourra plutôt produire, à ce que la population puisse être vigilante par rapport aux acteurs actuels qui font cette pratique. De mon point de vue également, je souhaiterais que si la population peut penser et surtout espérer au gouvernement, le gouvernement ne fait pratiquement rien en ce qui concerne la vie sociale de la population et surtout en ce qui concerne les problèmes qui guettent aujourd'hui la population. Par contre, le gouvernement s'occupe à d'autres problèmes. C'est pour cela que je pouvais solliciter si les ONG internationaux et nationales plutôt qui sont en place déjà là à Goma, qui peuvent prendre les experts, surtout en psychoclinique, pour pouvoir mettre sur pied cette théorie, cette thérapie qu'on appelle thérapie communautaire, qui sera vraiment beaucoup plus aidée.
Et comment elle fonctionne, cette thérapie communautaire? On met ensemble les anciens violeurs et les survivantes pour faire quoi? Partager les expériences, ou qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement?
La théorie, et plutôt la thérapie communautaire, consiste d'une part, à prendre les anciens violeurs qui ont déjà renoncé à cette pratique, les utiliser comme le panneau publicitaire pour partager les expériences vécues et surtout la motivation qui les a poussés à mener cette action, et également prendre aussi les personnes victimes qui ont subi la thérapie.
D'accord, vous voulez dire les utiliser comme des pères éducateurs?
Ah oui, de pères éducateurs, bien sûr, pour les mots, merci beaucoup. Qu'on puisse les utiliser dans ces sens, afin que la population puisse tirer quand même des leçons.
D'accord.
Pour pouvoir
merci Isaac.
Pour pouvoir se mettre aux abris.
Merci Isaac. Madame Yande Ndeye, vous avez la parole.
Oui, merci bien. Moi, je voudrais juste revenir sur l'histoire de la PNC, là, avec le non-paiement des salaires. Je voudrais signaler quand même une chose. Quand je parlais de causes structurelles, tout ça, ça rentre dans le cadre, voilà, du paiement des salaires, mais ça ne veut pas dire que les actes qui sont posés par les auteurs présumés, que ce soit FARDC ou PNC, se justifient par voilà, le non-paiement des salaires. C'est-à-dire les actes qu'ils posent en commettant des violences sexuelles ou des viols ne peuvent pas se justifier tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Ça, c'est, il faut que ça soit très clair. Voilà.
Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, ceux qui sont dans les groupes armés, ils agissent sous les effets de la drogue?
Ah, ça vraiment, je ne saurais vous dire, mais c'est possible. Parce que les groupes armés, c'est une autre catégorie de violateurs des droits de l'homme. Donc, ça, je ne saurais le dire, c'est possible. Mais tout est-il que les abus sont là, ils sont constatés, enquêtés, vérifiés et corroborés aussi. Voilà, donc pour revenir juste sur les actions aussi, hein,
oui,
complète, il y a la sensibilisation,
oui,
la conscientisation, mais aussi la lutte contre l'impunité. C'est vrai qu'il y a quelques pas qui ont été faits, mais ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, tous les violateurs, tous les auteurs présumés ont été jugés et condamnés. Voilà, et nous nous battons pour que cela arrive. Maintenant, pour revenir à l'auditeur qui vient de parler, il a parlé d'auteurs qui avaient été jugés, condamnés. Moi, je pense que qu'on les mette ensemble avec les victimes. Moi, je pense que les actions que nous menons dans le cadre de la continuité, la durabilité, c'est plus orienté vers les victimes et les ONG qui assistent ces victimes. Mais les auteurs présumés, je pense qu'il faut les juger et les condamner. Ils n'ont pas de place là vraiment où les victimes sont là pour surmonter le traumatisme qui leur a été infligé.
Madame Chantal Moulop, quelle est votre réaction par rapport à la proposition d'Isaac? Il a parlé de la thérapie communautaire, mettre ensemble les anciens violeurs et les survivantes, pour mener ensemble la sensibilisation, les utiliser comme des pères éducateurs.
Pourrons peut-être éclairer la réponse à Isaac, à M. Isaac. Dans les programmes du président de la République sur la lutte contre la violence sexuelle, les violences sexuelles, premièrement, depuis le mois de juin, le président de la République a mis en place la ligne verte. Il faut savoir que c'est sous sa tutelle. Il a poussé tellement fort pour qu'on puisse travailler sur la ligne verte, qui est le numéro 122, pour tout ce qui est dénonciation de violences faites à la femme. Ce numéro est gratuit à travers les 26 provinces. Et les victimes, quand ils appellent, ils dénoncent, directement, ils ont un service de santé. On les dirige vers des centres de santé, des one-stop centers. Ils ont une prise en charge psychosociale et ils ont aussi un service juridique gratuit. Tous les trois services sont gratuits qu'on leur offre dans les 26 provinces. Et en plus, on reçoit en un mois, on a à peu près 10 000 coups de fil par mois de plaintes des femmes. De l'autre côté, le président de la République, depuis mars 2019, nous travaillons ensemble pour qu'ils puissent faire prononcer devant la nation la tolérance zéro. Là, maintenant, le programme est fini avec le ministère du Genre et le président de la République a promis de le faire d'ici janvier devant la population. Il va prononcer la tolérance zéro. Ça devait se faire là, mais avec les concertations, on a mis ça un peu en suspens parce que c'était un événement qui est national, qui devra le dire devant la nation. Et il y a un programme qui sera mis en place pendant 2 ans.
D'accord.
2 ans de programme sur ces violences-là.
Oui.
Et c'est là, dans ces programmes-là, que les suggestions que M. Isaac a données seront mises en place aussi dans ce qui est vulgarisation et tout ce qui est côté soit holistique, tout ce qui est côté, comment je peux dire, communication communautaire,
oui,
tout ce qui est prise en charge juridique et beaucoup de ONG vont ici participer. C'est pas, ce ne sera pas seulement un programme gouvernemental. C'est vrai qu'il y a, le côté gouvernemental, le côté présidentiel, mais il y a aussi côté communautaire, côté acteurs religieux, côté aussi tout ce qui est coutumier qui vont y participer. Il faut aussi savoir que ce programme-là, ça prend tous les ministères, pas seulement le ministère du genre et de la justice, ça prend aussi le ministère des Affaires de l'Intérieur, le ministère de la Communication, le ministère de la Coopération, parce qu'il y aura les différents bailleurs de fonds qui vont jouer.
Oui.
Il y a le ministère des Affaires étrangères, ministère...
Voilà, tous les ministères. D'accord. Voilà. Merci, Madame Chantal Moulop. Je rappelle que vous êtes conseillère spéciale du président de la République sur les genres et les violences faites aux femmes. Merci d'avoir participé à cette émission et excellente journée.
Merci beaucoup.
Bien, on va prendre un dernier auditeur avant de terminer et de conclure cette émission. Mike Kubasika, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Les violences sexuelles aujourd'hui en RD Congo, c'est un fléau qui a connu quand même une augmentation assez cruelle par rapport à la situation actuelle. La question que vous avez posée m'a beaucoup plus intéressé parce que vous demandiez qu'est-ce qui doit être fait au juste pour mettre fin à cette
à ce phénomène. D'accord. Qu'est-ce qui doit être fait d'après vous?
Oui, ce qui doit être fait d'abord, c'est l'effectivité de l'État sur l'étendue de la République. Il faut que l'État soit effectif. Que
le rétablissement de l'autorité de l'État sur...
L'autorité de l'État s'est fait sentir sur les terrains. Les groupes armés sont en train d'utiliser cette arme, les violences sexuelles, comme une arme, parce qu'ils sentent que l'État est absent sur les terrains et qu'après avoir commis le viol, la sanction après ne suit pas.
Il y a l'impunité, tout ça, voilà. Merci Mike, on n'a plus beaucoup de temps. Merci pour votre intervention. Madame Yandende, on va conclure avec vous. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est juste, je vais juste essayer de résumer en une phrase,
Oui.
Pour dire que tant que les problèmes de l'égalité des sexes, de la justice surtout à travers la lutte contre l'impunité, ainsi que l'insécurité ne sont pas résolus, nous n'aurons pas la paix dans tout le territoire congolais. C'est ce que je voudrais, c'est ce message
Merci.
Que je voudrais véhiculer.
D'accord.
Et permettez-moi de remercier les auditeurs de Radio Okapi. Je vous remercie infiniment aussi de m'avoir donné l'occasion de faire un bref aperçu et surtout vous présenter les causes profondes des violences sexuelles liées au conflit ainsi que les obstacles.
Merci.
Il y a de l'espoir.
Oui, il y a de l'espoir.
Voilà tout pour surmonter les défis majeurs. Merci beaucoup.
Merci Madame Yandende Yekane. Je rappelle que vous êtes conseillère chargée de la protection de la femme au Bureau des droits de l'homme à la MONUSCO. Bien, nous allons marquer une pause. On va suivre les informations et on se retrouve juste après dans la deuxième partie de l'émission pour parler de l'impact de l'alimentation sur la scolarité. Restez avec nous. Il est 11h à Kinshasa.